Merci si vous nous rejoignez maintenant. Francfort, une école de la pensée critique des effets du capitalisme. Autour de cette grande table, nous vous en avons déjà parlé avec Axel Honneth, de passage à Paris pour la sortie de son livre « Somme critique du pouvoir » l'an passé. À la foire du livre aussi, où nous étions avec les philosophes allemands Martin Zahr et Rainer Forst. Notre invité aujourd'hui se place dans le sillage du fondateur Theodor Adorno, mais dans une tonalité moins pessimiste, moins crépusculaire que ses prédécesseurs. Comment entrer en résonance avec le monde qui nous entoure, comme une suite logique à sa critique sociale du temps dans Accélération, paru en 2015. Armut Rosa publie aujourd'hui Résonance, une sociologie de la relation au monde à la découverte, pour remédier à la frénésie actuelle et à ce qu'il appelle la famine du temps, c'est-à-dire le manque drastique de temps dans nos vies aujourd'hui. Comment reprendre le contrôle de nos vies? Quelle relation nouer avec le monde? Le philosophe et sociologue allemand est notre invité. Bonjour à vous, Armut Rosa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Florence Roucoux, bonjour, votre voix française.
Bonjour.
Bonjour. Vous repartez, Armut Rosa, d'une question centrale pour le fondateur de l'école de Francfort, Theodor Adorno, d'une question toute simple et très actuelle. Qu'est-ce qu'une bonne vie?
Oui.
Quelle est votre réponse, votre définition de la bonne vie?
Oui, c'est difficile. Also, ich wollte wirklich noch einmal darüber nachdenken, wann das menschliche Leben.
Je me suis posé des questions au sujet de la réussite d'une vie humaine.
Et
ma réponse, c'est que ça ne dépend pas tellement de ce que nous avons, de ce que nous avons obtenu, le statut que nous avons dans la société, mais que c'est vraiment lié au lien que nous avons avec le monde. Le monde, ça veut dire avec les autres personnes, ça veut dire avec les choses desquelles on se préoccupe, mais aussi le lien avec notre corps, donc avec la vie.
Theodor Adorno disait « On ne peut mener une vie bonne dans une vie mauvaise ». Avec cela, vous êtes d'accord ?
Oui,
c'est une phrase très célèbre. Il n'y a pas de bonne vie dans le mauvais. Mais c'est vrai que je me la suis faite mienne dans le livre Accélération, Beschleunigung, parce que mon but était de faire comprendre qu'on ne pouvait pas résoudre le problème au niveau individuel. Il n'y a pas les techniques de gestion du temps, parce qu'on ne peut pas dire ben tiens, il suffit de se reposer un peu, d'être cool et les choses iront bien. J'étais quand même un petit peu plus pessimiste. Je me suis dit, individuellement, on ne peut pas y arriver. C'est un problème institutionnel, culturel. Mais dans le livre Résonance, maintenant j'ai changé un petit peu et je me dirais, en fait, ça dépend des deux côtés. Dans le lien, dans la relation, on peut avoir une influence sur le changement de la vie que l'on veut, mais en même temps, il faut agir ensemble pour pouvoir réussir la vie. La vie.
La vie. Et comment ça se mesure, une bonne vie? Est-ce qu'il y a des critères objectifs ou est-ce que c'est une affaire de ressenti?
C'est
vrai que j'ai voulu m'éloigner de la mesure que l'on prend tout le temps. Parce que c'est ce qu'on fait quand on demande aux gens « Est-ce que vous êtes content de votre vie ?» La plupart des personnes répondent en disant « Oui, j'ai un bon revenu, j'ai un job intéressant, j'ai une belle maison, j'ai peut-être une belle voiture, etc. » Et donc on peut toujours mesurer. Mais nous savons aussi que notre vie peut être réussie avec très peu de revenus. Et puis on sait aussi qu'on peut complètement rater sa vie, faire un burn-out, voire se suicider, quand on a beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas aussi simple de mesurer. Mais ce que j'appelle la résonance, on peut peut-être quand même la rendre mesurable en tant que qualité du relationnel. Et donc la vie réussie, ça serait... quel genre de relation as-tu avec les autres personnes, avec les choses et aussi avec le monde? Est-ce que le monde te touche? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait l'expérience de ce que c'est que de toucher le monde? Et quelle est donc la qualité de l'intensité que tu as dans ton rapport avec le monde? On peut peut-être même le rendre visuel, je ne sais pas, avec la recherche en neurologie, par exemple. boucle. Ce que moi j'appelle la résonance, elle pourrait avoir un corollaire physique mesurable, par exemple quand nos yeux brillent, ou même quand on est ému et qu'on a les yeux qui pleurent. Eh bien, ça pourrait être un signe de justement ce lien. C'est quelque chose qui nous a touchés, donc on réagit. Et donc c'est comme ça qu'on pourrait peut-être rendre la vie mesurable grâce à la résonance.
Et vos yeux à vous, ils brillent souvent, Marmot Rosa?
Ich glaube ja, ehrlich gesagt, weil ich
je crois que oui, honnêtement, parce que je me laisse toucher par beaucoup de choses. J'adore regarder les étoiles, par exemple, j'adore les montagnes, et déjà petit, rien que de voir le panorama représenté par les Alpes quand j'étais dans ma forêt noire, enfin, mais c'est vrai que ça me faisait briller les yeux. La musique est très très importante. Mais j'aime aussi faire de la philosophie et puis j'aime aussi l'interaction avec mes étudiants. J'adore enseigner. Ça, c'est quelque chose qui me donne l'impression. Eh bien, en tout cas, j'espère très sincèrement que mes yeux brillent, oui.
Là, vous allez chercher ce qu'il y a de meilleur dans le monde qui vous entoure. Mais le monde que vous nous décriviez, notamment dans Accélération, votre précédent essai, est beaucoup plus sombre que celui-ci. Innovation, croissance, progrès, vous décrivez ces trois moteurs de la modernité, les sociétés capitalistes qui carburent en permanence avec ce problème qui serait structurel à vos yeux, celui d'une société zappante et aliénante pour l'homme qui la constitue. L'hyperconnexion, est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est un cache-misère pour vous qui recouvre un sentiment généralisé aujourd'hui de déconnexion?
Also, das ist schon richtig. Also, angetrieben war ich natürlich, oder bin ich immer noch?
Vrai, ce qui m'a motivé.
Von der Beobachtung, dass wir sehr häufig eben nicht mit leuchtenden Augen.
C'est justement le fait d'avoir pu observer que l'on ne regardait pas du tout, la plupart du temps, le monde, ni les gens autour de soi, etc., avec les yeux qui brillent. Il y a un mot compliqué, mais bon, allemand, c'est pas grave, je vous le dis quand même.
Ich nenne das Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus.
J'appelle ça le mode de comment vaincre le quotidien.
Bravo,
et le désespoir qui va avec.
C'est-à-dire
qu'on a tous des listes de choses à faire, des to-do listes, on appelle ça maintenant, et on est tout le temps sous la pression du temps. De manière à ce que, en fait, ça rend le monde agressif. Il faut faire les choses, vous savez, il faut cocher les cases tout le temps. Il faut que je fasse ceci, oh mon Dieu. Mais il y a longtemps que j'aurais dû faire autre chose aussi, mais bon, voilà. Et toute la journée, voilà, on coche des cases ou pas, on essaye de maîtriser les choses ou pas, et d'ailleurs, la plupart du temps, on n'y arrive pas.
Et
c'est vrai que nous sommes la plupart du temps dans un contexte qui ne nous permettent pas d'avoir les yeux qui brillent. Lorsque nous manquons de temps, et c'est quand même c'est vrai pour la plupart d'entre nous, alors c'est très risqué d'entrer en résonance avec quelqu'un. Parce que nous ne savons jamais ce qui va en sortir, combien de temps ça va durer. Donc, moi je dis que le monde moderne, face à cette accélération permanente, a créé une ambiance, une atmosphère, si je puis dire, et ainsi qu'une réalité institutionnelle où le mode de résonance est quasiment pas possible, et que cette aliénation, d'après l'école de Francfort, est la suite logique de ce mouvement.
Aujourd'hui, quand vous tendez l'oreille, Armut Rosa, vous entendez quoi? Quel est le son du monde qui nous entoure? Est-ce que vous parleriez d'un gros bruit sombre et lourd, ou est-ce que pour vous, au contraire, ce monde est devenu silencieux?
Ich glaube, die Welt ist sehr laut geworden eigentlich.
Je crois que le monde fait beaucoup de bruit.
Weil es bedarf eigentlich großer Lautstärke, damit man überhaupt noch
parce qu'il faut faire du bruit pour pouvoir déclencher un geste, du toucher ou créer l'attention.
Tatsächlich ist meine Wahrnehmung, dass wir eine große Sorge haben von einer großen Indifferenz. Es rauscht alles gleichermaßen.
Je pense qu'on a vraiment beaucoup à faire à une énorme indifférence. Alors on entend beaucoup de bruit, en tout cas, oui, un brouhaha. Il y a très peu de choses qui traversent carapace qui réussit à s'engouffrer dans les fenêtres. Et j'ai l'impression qu'on hurle à longueur de temps. Peut-être qu'on y est obligé, mais alors, pour le coup, on ne peut plus vraiment entendre.
Et on pourrait ralentir, en fait. On pourrait aussi baisser d'un ton. Ça serait peut-être la solution simple à nos problèmes si on l'appliquait tous collectivement. Vous, vous nous dites, dans cet ouvrage, Résonance, une sociologie de la relation au monde, que ce n'est pas si simple. Si le problème est l'accélération, alors la résonance est peut-être la solution. Entrer en résonance avec le monde, c'est tout simplement, à vous lire, s'ouvrir, être ouvert à ce qui se passe autour, voir, entendre, ressentir. Ça a l'air simple, mais évidemment, ça ne l'est pas tant que ça. Qu'est-ce que vous appelez, vous, Armut Rosa, des relations résonantes ? À quoi ça ressemble ?
J'ai voulu m'éloigner de l'idée que la résonance ne serait qu'une métaphore. C'est une forme spécifique de l'entrée en relation avec le monde qui repose sur quatre choses essentielles. C'est des moments essentiels, tout d'abord. Quelque chose me touche. Crée une émotion aussi. Cela veut dire que je me mets dans la position d'être touché et de recevoir, mais en plus ça me parle.
Et
moi j'appelle cela le moment de la création de l'affinité. On peut aussi dire comme Bruno Latour, c'est l'appel. J'ai entendu l'appel qui vient de là au dehors, et ça c'est le premier moment fondamental. Mais ça ne suffit pas. Parce que, ensuite, pour être en résonance, il faut que je puisse répondre. Non seulement on me touche, on m'atteint, mais il faut aussi que moi j'atteigne l'autre. Je vais vers l'appel que j'entends. Et pour cela, j'utilise le mot de l'efficacité, de l'auto-efficacité, c'est-à-dire que je me sens en lien avec le monde. Et cette efficacité, c'est pas d'avoir le contrôle sur quelque chose du tout. C'est l'idée que, je vais obtenir ça, je vais pouvoir déclencher une réponse. Le troisième élément, c'est le changement qui s'opère en moi. C'est exactement le moment où je me sens vivant. D'ailleurs, ça aussi, c'est une idée de Bruno Latour. C'est très, très bien formulé. C'est le moment du vivant. Je me laisse toucher. J'atteins l'autre et donc je change.
Ce
qui est intéressant, c'est que je ne peux pas prédire à aucun moment dans quel sens va aller cette transformation, ce changement. Et c'est pour cela que le quatrième instant, moment, c'est ce que j'appelle... Oui, il est difficile de traduire cela. C'est la non-disponibilité.
Indisponibilité.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas forcer la résonance. Que je réussisse à entrer en résonance avec la littérature, un paysage, avec une personne, on ne peut pas le prédire et on ne peut pas l'acheter. C'est vrai qu'on achète souvent des places de concert, on paye vraiment incroyablement cher parce qu'on sait qu'on va être touché d'entendre cette star internationale sur la scène, etc. Mais c'est pas forcément sûr. On veut juste en être persuadé au départ. Et puis après, en sortant, on dit « Oh là là, c'était génial ce concert. » En fait, mais non, on n'a pas été touché. Du tout.
Et on demande à être remboursé.
Hein? Exactement.
Mais c'est ça.
Voilà.
On se donne l'idée d'avoir un droit sur des choses. Et ça, ça ne marche pas du tout dans la résonance. Parce que la résonance, en fait, elle est inattendue. Quelque chose se passe. J'entends l'appel au moment où je ne l'avais pas attendu, cet appel.
Et
il y a encore un autre moment dans cette non-disponibilité. C'est que je ne sais pas quel va être le résultat. Si je me laisse toucher par quelque chose, je ne sais pas. Et c'est justement ça que l'on a dans cette société post-capitalistique et très capitalistique, justement pas calculée, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, alors on ne peut pas se permettre de ne pas savoir, parce qu'il faut optimiser, il ne faut pas perdre de temps, alors on ne va quand même pas partir comme ça, se laisser aller vers l'inconnu, c'est pas possible.
La résonance, ce concept donc que vous développez dans cet ouvrage Essai Somme qui paraît à la découverte pour tendre vers la vie bonne, est-ce qu'elle relève plutôt pour vous, Arbut Rosa, de la contemplation ou de la perception ? Et pour ouvrir cette question, je vous propose d'écouter les mots du philosophe Maurice Merleau-Ponty, visible, invisible, grand spécialiste de la perception, extrait de ses causeries.
Le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous, puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calculs pour y accéder, et qu'il nous suffit en apparence d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer. Pourtant, ce n'est là qu'une fausse apparence. Je voudrais montrer dans ces causeries qu'il est dans une large mesure ignoré de nous, tant que nous demeurons dans l'attitude pratique ou utilitaire, qu'il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de culture pour le mettre à nu, et que c'est un des mérites de l'art et de la pensée moderne, j'entends par là l'art et la pensée depuis 50 ou 70 ans, de nous faire redécouvrir ce monde où nous vivons, mais que nous sommes toujours tentés d'oublier. Ceci est particulièrement vrai en France. C'est un trait non seulement des philosophies françaises, mais encore de ce qu'on appelle un peu vaguement l'esprit français, de reconnaître à la science et aux connaissances scientifiques une valeur telle que toute notre expérience vécue du monde se trouve d'un seul coup dévalorisée.
1948, extrait des causeries de Merleau-Ponty, Arbut Rosa. C'est un philosophe qui vous a inspiré dans ses réflexions.
Merleau-Ponty m'a beaucoup inspiré parce qu'il a l'idée suivante. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dépendants du monde, mais nous sommes au monde. Nous sommes toujours dans un lien qui unit la pensée passive et active. Et la perception, c'est pas simplement quelque chose de passif, c'est aussi une action active. Et Merleau-Ponty disait que les choses elles-mêmes nous observent. Il y a cette façon très spécifique d'entrer en contact, enfin en relation avec le monde. Et pour moi, il est très important de dire que la science met un point d'honneur presque à enlever la perception au monde, de mettre le monde à distance, de manière à ce qu'on ne participe pas d'une certaine manière. On est neutre, on est objectif et on observe le monde. Mais Merleau-Ponty nous dit que c'est un leurre depuis toujours. En fait, on est toujours tenté de rentrer dans ce processus de résonance. Et la science des neurones nous dit qu'il y a toujours un rapport en alternance. Il y a toujours le corps et il y a toujours l'esprit. Avec le corps, déjà, on est en résonance, obligatoirement, avec le monde.
Vous quittez aussi une attitude romantique par excellence en revenant sur la perception, mais Merleau-Ponty, lui, il ne vivait pas à l'ère technologique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut entrer en résonance avec un casque de réalité virtuelle sur la tête ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui se virtualise, où les interconnexions sont de plus en plus virtuelles, on peut aussi créer, dans cet espace-là, des liens avec l'autre ?
Voilà
une question intéressante pour un sociologue. Lorsque l'on sort de la maison, lorsque l'on prend le métro ou que l'on marche dans la rue, on voit des gens qui, en fait, se ferment du monde extérieur. Ils portent des casques et, bien sûr, ils regardent leur smartphone. Ils le regardent vers le bas, toujours. Ce qui veut quand même très est clairement donné comme signal, je n'ai pas envie d'entrer en contact avec le monde. Je veux me mettre en résonance avec moi-même, voire même la stimuler, la résonance, l'auto-résonance. Mais bon, on ne peut pas être que pessimiste, et d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de l'être. Bien sûr qu'avec un casque sur la tête, on peut permettre la résonance. Par exemple, une relation avec la musique, ça va forcément déclencher quelque chose. Mais ça fait partie d'ailleurs de mes expériences à moi, particulièrement intensives. J'utilise un casque pour écouter de la musique et pour complètement rentrer dedans. J'ai l'impression que ça représente même mon cordon ombilical avec la vie. Il n'y a pas de technologie qui soit totalement libre de résonance, mais on peut l'utiliser de manière à ce que ça ne déclenche aucune résonance. C'est le côté négatif. Moi, je suis plus sceptique et critique vis-à-vis des écrans. Je réfléchis quand même souvent au rapport au monde et je me rends compte que le petit écran du smartphone souvent représente notre seul lien, canal d'échange éventuellement avec le monde. Alors on travaille avec, on s'informe, peut-être même qu'on cherche même un lien érotique, sexuel, une stimulation, mais c'est toujours le pouce qui caresse cette espèce de chose qui n'a pas de contour et pas de surface. Voilà. C'est très réducteur et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie menace pour la résonance.
Armut Rosa, vous décrivez donc aussi des axes de résonance stables et vous en voyez trois principaux des axes. L'axe horizontal qui serait constitué, pour faire court, par les relations sociales. C'est ce que nous sommes en train de créer ou de tenter de créer en ce moment, tous les trois dans ce studio, mais aussi avec ceux qui nous écoutent. Un axe plus vertical, celui des relations transcendantes à la nature, à la religion, à l'art, et enfin un axe diagonal constitué des relations au monde matériel et au monde du travail. Il y a une dimension spirituelle pour vous, presque mystique aussi dans la résonance.
Also, es ist schon richtig, dass diese Idee von
Resonanzbeziehungen, du lien ou de résonance peut éventuellement avoir de la famille avec une expérience mystique, en tout cas spirituelle, mais on peut faire tout cela et être en résonance sans aucune condition, ni mystique, ni ésotérique, ni spirituelle. Je pense que ça peut être un pur concept sociologique. Tous les gens que je connais, enfin, et parce que nous sommes des hommes et des femmes, nous connaissons l'expérience qui se cache dans la relation que j'appelle résonance. Nous sommes en train de faire une émission de radio et ceux qui nous écoutent n'écoutent peut-être pas attentivement. Ou alors, ils écoutent, mais ils veulent avoir une information très précise, donc ils vont écouter les informations. Et puis quelque chose, ou tout à coup, ils entendent quelque chose, un mot, qui fait que, ah tiens, ça les intéresse. Et je passe au nous, ça nous intéresse, parce que je m'inclus dans cette expérience. Et tout à coup, il y a un lien et une résonance avec la voix, avant même d'entrer en résonance avec ce qui est dit et le concept. C'est la même chose avec la musique. Et ça, on le connaît, on l'a tous vécu. On peut expliquer l'aspect spirituel grâce à la résonance. On n'a pas besoin d'être spirituel pour être en résonance. Il faut être en résonance pour comprendre éventuellement ce qui se passe dans certains aspects de la religion. Si on prend des idées religieuses, on se rend compte que la religion a des idées et des pratiques qui nous mettent en lien avec l'univers, avec le monde et avec Dieu. Par exemple, la Bible est le seul document de recherche de réponse. Et on nous dit, dans la Bible, il y a quelqu'un, quelque chose, un concept qui nous a donné le souffle, la vie, et qui nous fait entrer en résonance. Mais finalement, c'est le besoin de résonance qui déclenche éventuellement la religion ou la quête spirituelle.
midi, non, 13h20 déjà, pardon, sur France Culture, notre invité, le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa, pour son essai « La résonance qui paraît à la découverte ».
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Bruno Latour, que vous avez cité dans Où atterrir, voit le monde qui nous entoure et cherche comment pour pouvoir s'y ancrer. Si on cite d'autres auteurs français comme la philosophe Annie Lebrun dans Ce qui n'a pas de prix, qui est paru l'an passé chez Stock, elle décrit combien le monde et l'art aujourd'hui est dévoyé. Elle parle de cet enlaidissement du monde, estimant que la seule issue qui nous est imposée aujourd'hui est une marchandisation du monde, y compris à travers l'art contemporain. Et à travers ce tout commercial, il est complètement difficile d'y échapper, Hartmut Rosa. Eva Illouz, qu'on a reçue aussi récemment, la sociologue, pour son livre « Apicratie », nous montrait combien il était compliqué aujourd'hui d'être heureux dans une société qui a ce dictat du bonheur permanent. Les individus sont seuls face à eux-mêmes et ne doivent donc demander de compte qu'à eux-mêmes, dit-elle. On est responsable de notre bonheur, on est responsable de notre malheur, à défaut de pouvoir trouver des réponses collectives. Comment trouver la voie de cette vie bonne aujourd'hui, sans se soucier de tout ce qui se passe autour? Autrement dit, est-ce que la réponse est simplement en nous? Est-ce qu'elle n'est pas d'abord dans notre environnement?
Ich glaube tatsächlich, dass die moderne Kultur genau hier das große Problem hat.
C'est justement là que la culture moderne est confrontée à un problème. Parce que nous pensons toujours que nous devons trouver cela en nous, qu'il faut nous écouter, qu'il faut gagner en autonomie. L'idée, c'est que le bonheur, ça serait d'être tellement autonome qu'on serait influencé par rien. Il y a de nombreux livres qui disent que la bonne vie, c'est celle qui découle selon les principes que l'on ou les règles que l'on s'est fixé soi-même. Et puis il y a tous ces bons conseillers qui disent « Oh, il faut que tu développes ta créativité, ta spontanéité, tu dois être authentique, l'idée est très haute en toi, etc. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur. » Et je crois que c'est justement là l'erreur. Parce que c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même la résonance, elle commence avec l'appel de l'autre. De quelque chose, l'appel. Il y a là quelque chose que je ne connais pas, mais qui pourrait m'intéresser. Et Adorno le savait très très bien. Il a toujours dit, l'expérience vraie, c'est celle qui me permet de perdre en autonomie. C'est ce qui va me permettre aussi d'être submergé par l'autre. Et par l'altérité. Si les gens qui vous écoutent réfléchissent à ce que c'est que l'expérience du bonheur, eh bien, la plupart du temps, je pense qu'ils vont penser à des expériences très vagues. J'avais envie de faire telle et telle chose, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui est arrivé et je n'ai pas pu faire autrement. Il a fallu que, par exemple, je m'arrête d'écouter de la musique ou que je parle à cet enfant. Voilà. Et on se rend compte que le bonheur commence avec le fait d'entendre l'appel. Et je crois que la culture, elle est dans cette crise, la non-entente de cet appel. On ne se laisse pas appeler. C'est un problème spirituel, c'est un problème politique. Nous ne voulons pas, on ne veut même pas entendre ceux qui ont une autre opinion que la nôtre. On voudrait les réduire au silence. Et je pense que c'est le problème majeur.
Hartmut Rosa, il y en a un qui prétend être entré en relation avec le monde qui l'entoure, lui, ce qui lui vaut d'être qualifié de populiste, surtout quand il dit qu'il est la voix de ce monde qui l'entoure, et c'est Donald Trump.
Tous les matins, je me réveille déterminé à fournir une vie meilleure à ces milliers de gens disséminés à travers le pays, qui ont été ignorés, négligés et abandonnés.
J'ai visité les laid-off factory workers.
J'ai rencontré les ouvriers mis à la porte de leur usine et les communautés détruites par des accords commerciaux horribles et injustes.
These are the forgotten men and women of our country, and they are forgotten, but they're not going to be forgotten long.
Ces hommes et ces femmes sont les oubliés de notre pays, mais ils ne seront pas oubliés encore longtemps.
These are people who work hard.
Ce sont des gens qui travaillent dur, mais qui n'ont pas de voix. Mais je suis leur voix.
La résonance, un remède à la crise généralisée des relations humaines, selon vous, Armut Rosa. L'école à laquelle vous appartenez est quand même celle d'abord d'une remise en cause radicale et critique du système capitaliste. Alors est-ce que dans tout cela, la résonance est un simple aménagement pour vous? Ou est-ce qu'il faut continuer à essayer de déterminer les conditions sociales et collectives du bonheur?
Il
y a deux choses qui sont très importantes à mes yeux. Tout d'abord, que la résonance n'est pas un problème de luxe, c'est-à-dire on va laisser les choses telles qu'elles sont, le monde surtout, mais on va chercher un petit peu de résonance. Non, il s'agit des fondamentaux. Il s'agit de notre existence dans ce monde. Avec Horkheimer et Adorno, on vit cette société, enfin, nous disons que la société capitaliste veut régner, contrôler et veut étendre le pouvoir. Chez Adorno, il y a plus comment se rapprocher peut-être du monde. Et puis chez Marcuse, il y a même une approche un peu érotique du monde. Quelle que soit l'approche, peu importe, on ne peut pas y arriver tout seul parce qu'il faut une action politique. Mais j'aimerais bien revenir sur Trump parce que pour moi, ce qui se passe est vraiment important. Ce populisme de droite avec le Brexit, le Front National, avec Trump, enfin partout, est justement porté par la nostalgie, non l'envie de la résonance. Mais avec des discours comme cela, ils sont pas vraiment entendus, et en même temps, cette voix leur dit, mais moi je vous entends, donc je vais justifier votre existence. Et c'est pour cela que Trump a tellement de succès, et je crois que ce discours-là, c'est son meilleur discours jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas « je vais vous donner la voix, je vais vous rendre votre voix ». Il ne dit pas ça. Il dit « je suis votre voix ». Alors là, on voit quand même une espèce de double faute du monde politique. La première faute, et Trump est vraiment, d'un point de vue paradigme, un très, 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 très bon exemple. Il ne veut pas entendre les autres. Il le dit dans chaque discours. On ne se laisse pas dicter nos actions par qui que ce soit. L'Amérique, c'est Trump. On ne veut rien entendre de la part des musulmans, des Chinois, de l'establishment, etc. On ne veut pas entendre parler de... Tout le monde doit se taire. Tous ceux qui ne pensent pas comme moi doivent se taire. Et la conséquence, c'est que l'on n'entend même pas sa propre voix. On n'entend plus que la voix du Führer, qui est Trump. C'est pas de la voix, c'est de l'écho.
Et justement, en parallèle de votre essai Résonance, qui paraît à la découverte, sort Remède à l'accélération, impression d'un voyage en Chine et autres textes sur la résonance édité par Philosophie Magazine. La Chine, cas d'école de l'accélération, vous y avez trouvé la même chose que ce que vous nous décriviez à l'instant pour les États-Unis et Donald Trump, en un mot?
La
Chine avait encore moins de temps et une approche beaucoup plus radicale pour atteindre une stabilité. Il a fallu qu'ils croissent très rapidement pour pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient, pour pouvoir aussi maintenir ce qu'ils avaient. Mais en même temps, il y a aussi l'influence des traditions culturelles. Il y a d'autres manières de raisonner dans le monde. On peut aussi regarder ailleurs.
Oui, merci beaucoup d'être venu nous présenter la vôtre, Armut Rosa, à travers votre concept de résonance. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Mayenne Escovic et Laura Dutech pour La Grande Table des Idées, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation, Marie Placet et Gaël Gillon avec Florent Bujon. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle Grande Table.